إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi mercredi en cette soirée du mercredi 6 Ramadan. Naam. Inch'Allah ta'ala, ici en Algérie, nous sommes le Inch'Allah, 5 Ramadan, parce qu'il est seulement 23 heures. Et chez vous, le 6 Ramadan, 1430, ce qui correspond, Inch'Allah ta'ala, à mercredi 26 août 2009, ou bien chez vous, jeudi 27 août 2009, vu qu'il y a une heure de décalage, Inch'Allah ta'ala. On va continuer à avec quelques fatwas du Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah, et ensuite inshallah ta'ala on va passer aux questions et réponses. Le Cheikh alayhi rahmatullah a dit, je lis d'abord en arabe, ensuite inshallah ta'ala je traduis en français. Il a dit: idha intaqala insanun min baladin islamiyyin ila akhar. Il a dit, si jamais un musulman va se déplacer d'un pays musulman vers un autre pays musulman, mais le pays vers lequel il s'est déplacé, ils n'ont pas fait le jeûne le même jour que le pays où il était, c'est-à-dire le pays où il a voyagé. Ils ont retardé, par exemple, pour voir la lune. Il a dit, donc, فَإِنَّهُ يُبْقَى صَائِمًا مَعْهُمْ حَتَّى يُفْطِرُ. Non. Il a dit, il doit jeûner avec eux jusqu'au jour où ils vont manger. Il doit jeûner avec eux jusqu'au jour où ils vont manger. لِأَنَّ الصَّوْمَ يَوْمَ يَصُومُ النَّاسِ وَكَذَا الْفِطْرُ وَكَذَا الْأَضْحَى. Pourquoi? Parce que le siyam, le jeûne, c'est, comme a dit le messager de Allah, le jeûne lorsque les gens jeûnent. Le fitr, aussi le manger, c'est lorsque les gens mangent, et l'aïd, c'est lorsque les gens font l'aïd. Il a dit, même si il va jeûner plus qu'il ne devait jeûner, même s'il va ajouter un jour ou deux, même s'il va ajouter un jour ou deux. Il a dit, فَهُوَ كَمَنْ سَفَرَ إِلَى بَلَدٍ تَأَخَّرَ فِي غُرُوبُ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يَبْقَى صَائِمًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ. L'il-hadith, sumu, لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. Il a dit, c'est un peu, ou là c'est exactement, comme quelqu'un qui va voyager par exemple d'un pays vers un autre, et s'il était resté dans son pays, il restait seulement par exemple 2 heures pour le coucher du soleil. Mais quand il est arrivé dans l'autre pays, il trouve qu'il reste par exemple 6 heures pour que le soleil se couche. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il va dire, moi, je prends mon pays d'origine, il m'est resté là-bas que 2 heures, donc je reste 2 heures et je mange. Ou bien il est obligé d'attendre jusqu'au coucher du soleil avec les gens de ce pays vers lequel il a voyagé. Réponse, il est obligé d'attendre avec les gens jusqu'à ce que le soleil se couche. Même si, au lieu de jeûner 8h ou 9h, il a jeûné 11h ou 12h. Il a dit la même chose pour les jours. La même chose pour les jours. L'âme, s'il va vers un pays où eux, ils n'ont pas commencé le jeûne avec nous, mais non, ils ont commencé en retard, tu dois continuer à jeûner avec eux dans leur pays jusqu'à ce qu'ils déclarent que c'est l'Aïd. Tu ne fais pas comme les Takfiriyons et les autres, les Khawarij, qui vont faire l'Aïd tout seul. Ils vont dire, nous c'est l'Aïd, grâce à la maison, on le fait tout seul, c'est ça. Mais tu prends avec les gens du pays et avec le gouverneur du pays, quand le gouverneur est musulman, bi'idna azza wa jal. Il a dit, ou amma l'axe. Il a dit, maintenant si c'est le contraire. Wa huwa idha intaqala min baladin ta'akhkhara fihi thubutu ash-shahri ila baladin taqaddama fihi thubutu ash-shahri indam. Il a dit, maintenant c'est le contraire. Il est parti d'un pays, yani, et dans son pays, le fait, yani, de voir la lune a retardé. C'est-à-dire, ils ont commencé le jeûne en retard par rapport au pays vers lequel il s'est déplacé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, eux, dans leur pays, ils vont manger avec eux. Parce qu'eux, ils vont manger avant lui. Parce que eux, j'ai dit, ils ont vu la lune avant son pays d'origine. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il mange avec eux? Ou bien il va dire, non, je n'ai pas encore jeûné 28 ou la 29 ou la 30, donc je vais faire le siyam tout seul. Réponse, il a dit, yuftaru ma'hum. Il va manger avec les gens du pays où yani, il a voyagé. Wa yaqdi ma fatar min Ramadan. Ensuite, il va rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné du Ramadan. Fa in aftara li 28 yawman. Maintenant, si lui, par exemple, lorsqu'il a mangé, c'est le pays où il a voyagé, il a mangé, il a compté que c'est le 28e jour. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans ce cas, il va rattraper deux jours. Il va rattraper deux jours si les deux pays, celui où il est arrivé et son pays d'origine, ont jeûné 30 jours. Mais si un des deux pays a jeûné seulement 29 jours, alors il doit rattraper un seul jour. Alors il doit rattraper un seul jour. Mais la règle c'est quoi? Le plus intéressant ici c'est quoi? C'est que on mange avec les gens et on fait le siyam avec les gens. On ne fait pas un autre de ce qu'on appelle chaudou, on va diverger avec les gens et on va contrarier tout le monde. Mais bien au contraire, on va manger avec eux s'ils mangent et on va rattraper pour ne pas faire la fitna, ou bien on va faire somme avec eux. Non. Il a dit, cheikh, même si tu fais plus de 30 jours, il a dit, même si tu fais 31 jours de siyam, alors qu'en islam, il n'y a pas 31, il y a seulement 30, il a dit, ça ne fait rien, tu fais 31, juste pour ne pas faire la fitna et ne pas diverger. Okay. Autre fatwa, inshallah ta'ala, يذهب الشيخ بن عثيمين على رحمة الله إلى أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلاة أيام إغمائه إذا لم يكن هو متسبب في الإغماء بخلاف النائم الذي يمكن إيقاظه للصلاة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله parle ici de la salat. Il dit que son avis à lui c'est que la personne qui tombe évanouie. Si une personne s'évanouit, il a dit, ensuite, elle prend conscience, il a dit, cette personne ne doit pas rattraper ce qu'elle n'a pas fait comme salat. Et la même chose, bien sûr, ne doit pas rattraper ce qu'elle n'a pas fait comme siyam. Il a dit, c'est comme ça pour la personne évanouie. Il a dit, ce n'est pas comme celui qui dort. Car celui qui dort, qu'est-ce qu'il fait? On peut lui dire, on peut le réveiller. On lui dit, réveille-toi, c'est quoi? C'est le siyam. Le réveille-toi, c'est l'heure de la salat. Mais celui-là, il s'est évanoui, ça ne vient pas de lui. C'est pour ça que Cheikh Rahmou a dit, à condition que ça soit pas lui qui soit la cause de l'évanouissement. À condition que ça soit pas lui qui soit la cause de l'évanouissement. Mais c'est venu comme ça, d'Allah Azza wa Jalla. Il a dit, dans ce cas, il rattrape pas la salat. Autre chose, Inch'Allah. Il a dit, « Al-kafiru ida aslama athna'a nahara Ramadan والصبي إذا بلغ يلزمهما الإمساك ولا يلزمهم القضاء على الراجح. Il a dit, lorsque le mécréant yani, se convertit à l'islam pendant la journée du Ramadan, et la même chose pour l'enfant, s'il devient pubère pendant le Ramadan, il a dit, ils doivent faire le jeûne, ils doivent faire le jeûne et ils ne sont pas obligés de rattraper cette journée. Donc, on a besoin de lui quand les reconvertis nous demandent un reconverti à 10 heures du matin pendant le Ramadan. Il a dit, je veux rentrer en islam. Et il est 10 heures du matin pendant le Ramadan. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, d'ailleurs, tu vas rentrer à partir du moment où tu as attesté. Tu as fait les deux attestations. Maintenant, tu dois jeûner ce jour. Sauf bien sûr, si c'est une femme et qu'elle a des menstrues. Sinon, on lui dit, tu dois jeûner ce jour, même si tu dois le commencer à 10h ou à midi ou à 16h, il n'y a pas de différence. Même s'il y a 5 minutes à jeûner, tu dois les jeûner. Et ensuite, on lui dit, tu ne rattrapes pas la journée. La même chose pour l'enfant qui, à midi ou bien à 16h ou là, il est devenu pubère. On lui dit, mon fils, donc, tu vas jeûner ce qui reste de la journée, et Inch'Allah Ta'ala, tu ne vas pas rattraper la journée. Il a dit autre chose, alayhi rahmatullah, il a dit, bin nisba lil ghasil, parce que ce qu'on appelle le ou la dialyse. Vous savez ce que c'est la dialyse? Le ou la, je ne sais pas, mais vous savez ce que c'est. Réponds-moi d'abord, Al-Ghuraba, si vous savez ce que c'est. C'est quelque chose, yani, quelqu'un qui est malade des reins. La dialyse, d'accord. Quelqu'un qui est malade des reins, et, yani, il est obligé de, une fois tous les deux jours, je crois, que Allah Azza wa Jalla nous en préserve, il doit aller, yani, faire changer son sang, ou quelque chose comme ça. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymeen va dire, est-ce que le fait de faire la dialyse pour purifier son sang, est-ce que ça annule le Ramadan, ça annule le carême et on doit refaire un jour ou bien ça n'annule pas? Il a dit, sorte de dialyse, si la dialyse qu'il fait contient des éléments nutritifs, des éléments de la nutrition. Il a dit dans ce cas, il doit refaire ce jour. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est comme si on lui a donné à manger et à boire. Mais il n'a pas mangé par sa bouche, il a mangé par les veines. Il a mangé et on lui a donné du sang nouveau, et on lui a donné des choses à l'intérieur, yani ajoutées au sang. Il a dit, mais si on ne mélange rien avec le nouveau sang qu'on va lui donner, seulement son sang qu'on va purifier, il a dit dans ce cas, il est toujours dans le jeûne. Il n'a pas annulé son jeûne et il ne doit pas rattraper un autre jour. Autre chose, il a dit, il a dit, si une personne meurt pendant le Ramadan et que cette personne était malade, si une personne meurt pendant le Ramadan et que cette personne était malade et qu'elle n'a pas jeûné, cette personne n'a pas jeûné, il a dit, si cette personne qui était malade et qui vient de mourir et que sa maladie était du genre chronique, ça veut dire qu'il n'a pas, disons, qui est toujours avec lui, qui ne guérit pas vite, il a dit, cette personne, on ne va pas jeûner pour elle. Elle est morte, on ne va pas jeûner pour elle. Pourquoi? Parce que si elle était vivante, si elle n'était pas morte, elle n'aurait pas jeûné. Parce que elle est malade d'une maladie qui ne lui permet pas de jeûner. C'est comme le diabète, c'est comme la dialyse, c'est comme... Il y a des maladies qui ne te permettent pas de jeûner durant toute ta vie. Donc, puis cette personne est morte. Et si elle était vivante, elle n'aurait pas jeûné. Qu'est-ce qu'on va faire à sa place? On ne va pas jeûner. On va faire mourir un pauvre pour chaque jour que la personne n'a pas jeûné. Non. Il a dit, mais si la personne qui était malade et qui vient de mourir était malade d'une maladie qui n'était pas chronique, hein, qui n'était pas chronique, juste une maladie comme ça qui se guérit, il a dit, dans ce cas, si cette personne meurt et n'a pas jeûné, hein, il faut, hein, quoi, il faut qu'on jeûne à sa place. Il faut qu'on jeûne à sa place. Et là, bien sûr, il y a khilaf, il y a khilaf entre les savants. Comme Cheikh Al-Othaymeen Rahmoussira, il dit que, yani, on jeûne pour lui. Et Cheikh Al-Albani Rahmoussira dit que on ne peut pas jeûner pour lui, mais on doit quoi? On doit seulement faire manger, faire nourrir, yani, pour chaque jour qu'il a mangé. Car d'après Cheikh Al-Albani Rahmoussira, on ne peut jeûner que pour nadr. Si quelqu'un avait fait un nadr, un vœu, il a dit sinon on ne peut pas jeûner pour quelqu'un. Et nous avons l'artilef dans cette chose-là, et la plupart des savants disent que on peut jeûner pour le malade qui est mort d'une maladie, yani, qui n'était pas chronique, à cette condition. Non. Autre chose, inshallah ta'ala. Non. Mais qu'il y a, يطعم لأجل مرضه المزمن ثم شفاه الله لم يلزمه القضاء لأن ذمته بريئة بالإطعام وكذلك الذي يعجز عن الحج عجز الكلي ثم شفاه الله عز وجل بعد أن أناب أحدا عن ولي الحج فإنه لا يلزمه الحج مرة أخرى لسقوط الفريضة عليه بالنيابة والتكليف الغير مكانه. Une chose aussi importante, qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Al-Rahmoud? Il a dit, si quelqu'un, non, si quelqu'un qui était malade d'une maladie chronique et par conséquent il nourrissait un pauvre pour chaque jour qu'il a mangé. Ensuite, Allah Ta'ala a voulu guérisse, que cette personne guérisse. Le Cheikh Rahmoud dit, maintenant, cette personne qui est guérie, bi'idhnillah Ta'ala, ce n'est pas la peine qu'elle rattrape les jours passés. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà fait mourir des gens à la place des jours qu'elle a mangé. Et elle savait pas qu'elle allait guérir. Car si elle savait qu'elle allait guérir, elle n'aurait pas eu le droit de jeûner. Elle aurait dû attendre jusqu'à la guérison pour rattraper. Mais puisqu'elle était malade d'une maladie chronique et elle croyait qu'elle ne guérissait pas, elle a fait nourrir des gens. Maintenant qu'elle a fait nourrir des gens, Allah Ta'ala a voulu la guérir. Maintenant, khlas, elle va pas rattraper les jours, parce qu'elle a déjà fait mourir à la place du jour mangé. Il a dit la même chose pour le hajj. Quelqu'un qui sait qu'il est malade d'une maladie grave qui ne lui permet pas d'aller au hajj, qu'est-ce qu'il va faire? S'il a de l'argent, il va envoyer quelqu'un à sa place. Maintenant qu'il a envoyé quelqu'un à sa place, ensuite cette personne est revenue. Ensuite, 6 mois après ou là, Allah Ta'ala a guéri cette personne. Est-ce qu'on va lui dire maintenant que tu es guéri, va refaire le hajj? Ou bien, on lui dit, khlas, le hajj tu l'as fait, inshallah ta'ala, en envoyant une personne. C'est ça la réponse la plus juste. On lui dit, c'est pas la peine que tu refasses le hajj. Le hajj tu l'as fait, inshallah ta'ala, en envoyant une personne à ta place. Et lorsque tu as envoyé la personne, tu croyais que tu n'allais pas guérir. C'est pour ça qu'il était permis que tu envoies. Maintenant donc, c'est pas la peine que tu refasses le hajj, inshallah ta'ala. Attendez, je vais voir s'il y a autre chose encore. Écoutez cette fatwa, inshallah ta'ala. Su'ila an musafirin sa'imin fi ramadan nawal fitr. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah, on lui a posé la question sur quelqu'un, hein, qui était voyageur. Il était en voyage, hein, et il jeûnait. Ensuite, il a mis dans l'intention de manger. Puisqu'il est voyageur, vous savez que droit de manger. C'est pour ça que ce voyageur a mis dans l'intention de manger. Ensuite, cette personne, subhanallah l'adhim, qui a décidé de manger, puisqu'il était voyageur, n'a pas trouvé quoi manger. Il a dit, dans le prochain restaurant, je vais manger. Quand il est arrivé au restaurant, il a trouvé le restaurant fermé. Alors il s'est dit, khlas, je continue mon siyam. Je vais continuer mon siyam. On lui a posé la question, Cheikh Ibn Rushd Al-Rahmou, yani, c'est quoi la réponse à ce cas? Il a dit, alayhi rahmatullah, anna sallahu ghayru sahih. Il a dit, son siyam n'est pas valable. Cette personne qui a mis dans l'intention de manger et ensuite n'a pas mangé parce qu'elle n'a pas trouvé quoi manger, cette personne, même si elle décide de continuer le siyam, son siyam n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que quand il a décidé de manger, chez Allah Ta'ala, il a déjà mangé. L'intention suffit. Quand tu lui dis khlas, j'arrête de faire le siyam, tu le dis seulement dans ton cœur, je khlas, tu as arrêté de faire le siyam. C'est pour ça que l'intention doit être avec toi pendant toute la journée. Que même si on te donnait à manger, tu ne vas pas manger. Mais si tu décides, tu dis je mange, même si tu vas à la cuisine, tu ne trouves pas ce qu'il y a à manger, khlas, tu as annulé ta journée, bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, لكن لو قال إن وجدت شيئا أكلت وإلا فلا ولم يجد الأكل فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق الفطرة على وجود شيء ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Mais maintenant écoutez ce qu'il a dit, quelque chose de très important. Il a dit, mais si une personne qui est par exemple en voyage dit, écoutez bien ce qu'elle dit, elle dit, si je trouve, par exemple, le restaurant ouvert, je vais manger. Mais si je ne le trouve pas ouvert, si je le trouve fermé, je continuerai mon siyam. Elle a dit comme ça dans le cœur. Ensuite, arrivant au restaurant, elle a trouvé le restaurant fermé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à jeûner. Pourquoi? Elle n'a pas rompu quoi sa niya. Parce qu'elle a bien dit, si je le trouve ouvert, je mange. Mais si je le trouve fermé, je continue. Donc, Ibn Rushd dit, si elle trouve le restaurant fermé, ouvert, elle mange, il n'y a pas de problème, et elle rattrape. Et si elle le trouve fermé, elle continue à jeûner et elle ne rattrape pas. J'espère que vous avez compris, vous avez vu la différence entre la première personne qui a dit, je vais manger, et l'autre qui a dit, je vais manger uniquement si je trouve l'autre ouvert. Sinon, je jeûne. Sinon, je jeûne. Non. Qu'est-ce qu'il dit ici? Enfin, pour terminer, il a dit, الدليل على أن إنزال المني بشهوة يفسد الصوم حديث البخاري يدع طعامه وشربه وشهوته من أجله وإنزال المني شهوة لكن يجب عليه القضاء فقط ما لم يجامع لأن هذا ليس بجماع وكذا لو أكل لا يقاس على الجماع بدليل أن الجماع يفسد الحج قبل التحلل ولا يفسد غيره من محظورات. On a parlé déjà de ça, mais يعني معليش ذكر غابل الشيخ الرحمه dit que si jamais quelqu'un pendant le ramadan fait descendre son liquide avec passion, avec shahwa, il a dit dans ce cas, bien sûr, il a annulé son jour. On ne parle pas, bien sûr, de celui qui fait la chose avec son épouse. Non, s'il fait avec son épouse, celui-là, yani, s'il fait l'accouplement, celui-là, c'est, vous savez, il a 2 mois consécutifs. Mais, on va dire, s'il n'arrive pas au but, fait des choses comme ça, des attouchements, etc., jusqu'à ce que son eau sorte de lui. Il a dit, dans ce cas, il a annulé son jour, et il a des péchés, bien sûr, et il va refaire le jour, bi'idhnillahi ta'ala. Alors que Cheikh Al-Albani Rahmou dit que il ne refait pas le jour. Même Cheikh Ibn Uthaymin, pourquoi il a dit il refait le jour? Il s'est basé sur le hadith de Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith Qudsi, Allah ta'ala a dit, en parlant du jeûneur, il a dit, il délaisse son manger, son boire et sa passion à cause de moi, sa shahwa. Il a dit comme ça, ta'amahu wa sharabahu, son manger, son boire, wa shahwatahu, et sa passion, il la délaisse à cause de moi. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, celui qui est avec sa femme au point où il a fait descendre son mot, il n'a pas délaissé sa shahwa. contraire, il a fait venir sa chahwa. Il a dit donc celui-là, il a annulé son jour. Naam. Tayyib. Et je terminerai avec une autre chose qui lui ressemble aussi. Il a dit والراجح أن النبي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع. Il a dit l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, pour le liquide qui sort, hein, le liquide qui sort lorsque il y a par exemple seulement des attouchements, ou bien lorsqu'une personne joue par exemple avec sa femme, ce liquide est beaucoup connu chez les hommes, beaucoup plus que chez les femmes. Hein? C'est pas le liquide qui donne l'enfant, c'est le liquide qui vient lorsqu'un homme joue avec sa femme ou bien pense à sa femme ou bien. Il a dit ce liquide visqueux, hein? Il a dit n'annule pas le siyam, même si il a dit on le fait sortir exprès. C'est-à-dire il va embrasser sa femme ou bien jouer avec, jusqu'à ce que ce liquide sorte, ce liquide visqueux. Il a dit dans ce cas, ça n'annule pas le siyam, car vous connaissez que le hadith, que le messager d'Allah, il est dit que kanayu bashiru pendant le siyam, qu'il faisait des attouchements pendant le siyam, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le danger, c'est quand il y a l'autre liquide qui sort, le liquide qui donne l'enfant. C'est celui-là qui, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, annule le jour et donne des péchés. Voilà, inshallah ta'ala, on va se suffire à cette chose, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Et on va, inshallah ta'ala, répondre à quelques-unes de vos questions, inshallah ta'ala. Ensuite, avant d'oublier le rabbin, inshallah ta'ala, tout à l'heure, j'ai pas vu ton message, je ne l'ai vu que en retard, qui m'est arrivé sur le portable. Tu as dit la sœur qui va faire une opération en urgence, etc. Est-ce qu'elle est là présente avec nous? Parce que hier, c'était mardi, normalement, la nuit, normalement, comme je vous ai pris, elle n'a pas le net. Naam. Tu lui dis, Inch'Allah Ta'ala, de m'appeler demain. Naam. Tu lui dis, Inch'Allah Ta'ala, de m'appeler demain, bi'idhna azzawu. Naam. Si je n'oublie pas. Pourquoi je dis si je n'oublie pas? Hier, par exemple, j'ai oublié que j'avais des questions-réponses. Hier, la nuit, je n'ai pas allumé mon portable, car j'ai oublié que j'avais des questions-réponses, surtout que j'étais invité chez des gens. Je ne me suis rappelé que vers 2h30 du matin, et c'était trop tard. Donc, Inch'Allah Ta'ala, dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, de m'appeler demain. Attends, demain, Inch'Allah Ta'ala. Demain, Inch'Allah Ta'ala, j'ouvrirai mon portable vers 23h. 23h. Algérienne, c'est-à-dire minuit chez vous, Inch'Allah Ta'ala. Tfadl.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son, Inch'Allah? Alhamdulillah. Shafakum Allah, Cheikh. Hafizakum Allah. Par contre, Cheikh, est-ce qu'on fait comme d'habitude deux questions en pâle et deux questions in speak, Inch'Allah? Est-ce qu'on en fait comme d'habitude, Inch'Allah? Cheikh, vous m'entendez, Inch'Allah? Alors là-bas, le son, il est clair, entré. Et je suis pas sur le in speak, Cheikh. Inch'Allah Ta'ala, si vous pouvez garder le micro sur le InSpeak. D'accord, Inch'Allah. Donc je lis la question de Ikhlas, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Une personne pense que le naturel revient au galop et que le bon comportement est inné. Que si on a des défaillances, on ne pourra jamais les enlever pour toujours. Elles reviendront tôt ou tard. Veuillez nous éclairer. Barakallah. Tfadal, Cheikh.
Barakallahu fik, répète la question, jazakallahu khair.
Donc je répète, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Une personne pense que, entre guillemets, le naturel revient au galop et que le bon comportement est inné. Que si on a des défaillances, on ne pourra jamais les enlever pour toujours. Elles reviendront tôt ou tard. Veuillez nous éclairer, barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh.
Avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, je voudrais dire à l'Ouraba qu'il n'a pas pris le micro, il ne l'a pas pris sur l'InSpeak, ce qui fait que les gens n'ont pas entendu la question sur l'InSpeak. Voyez où est le problème? Non, j'ai laissé spécialement, ça marche sur mon PC, Cheikh. Qu'est-ce qui marche? J'ai pas compris. Ouraba, explique-moi, prends le micro.
Salam alaykoum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez, inchallah? Cheikh, je vous ai dit, j'ai pas stéréo mix sur mon PC, ça marche pas. Quand je prends le micro, ça marche pas sur InSpeak. Ça marche sur Paltalk, mais pas sur InSpeak. À fond, Cheikh, je peux pas le prendre. Et si vous pouvez le laisser comme ça, inchallah. Ou alors, Muslim, alhamdoulilah, il vient. Il prend le micro, inchallah. Barakallahu fik.
Oui, j'ai pas bien entendu ce qu'a dit Rouraba car le son m'arrivait très faible. Non, le son m'arrivait très faible. Et maintenant, Abu Huraira vient de se connecter. Je lui donne le micro, Inch'Allah Ta'ala. Je lui donne le micro. Et Inch'Allah Ta'ala, comme ça, il va relire la question sur le inspecteur.
Donc je répète, Inch'Allah. Normalement, sur le InSpeak, ils ont le son. Alors, une personne pense que, entre guillemets, le naturel revient au galop et que le bon comportement est inné. Que si l'on a des défaillances, on ne pourra jamais les enlever pour toujours. Elles reviendront tôt ou tard. Veuillez nous éclairer, barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa En fait, la personne qui vient de dire cela, Nam, on peut dire que d'un côté, Yanni, elle a raison et de l'autre, elle a tort. Comment cela? Il faut comprendre que Yanni, les vertus et les bonnes qualités, etc., Allah Ta'ala nous a donné leur base. Elles sont chez nous. Elles sont chez nous. Comme dans le hadith du Bukhari que vous connaissez, où le messager d'Allah a dit à une personne que tu avais deux qualités, Naam, que yani, Allah Ta'ala aime beaucoup. Et cette personne a dit au messager d'Allah, Ya Rasulallah, est-ce que yani, elle vient d'Allah ou elle vient de moi? Le messager d'Allah lui a dit, elle vient d'Allah Azzawajal, c'est Allah Ta'ala qui te les a données. Si on va prendre ce hadith, on va dire que les qualités viennent d'Allah. Et que, non, donc, ce hadith est très clair. D'ailleurs, il a dit, les deux qualités qui ont été citées ici sur le hadith, c'est l'hilm ou ta'anni. L'hilm, c'est quand quelqu'un a une grande patience et il pardonne aux gens, etc. Et ta'anni, c'est le fait de ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter. Non, c'est d'aller doucement et aller avec sagesse, etc. Si on va prendre ce hadith, on va dire que donc les qualités, les bonnes qualités viennent d'Allah. Mais un autre hadith authentique dit, et il a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, il se trouve dans Sahih Al-Jama, où le messager d'Allah a dit, écoutez bien, il a dit, Il a dit, la science vient avec l'apprentissage. Voilà une très belle qualité, le fait de pardonner, etc. Il a dit, ça vient avec le tahallum. Tahallum, c'est le fait de s'entraîner à cette qualité pour l'avoir. Donc, je vais résumer et dire que les qualités, yani, leur base, si je puis dire, elles sont chez nous, yani de naissance. Mais c'est nous, Naam, qui, bi'idna azzawajal, en appliquant l'islam, en appliquant la sunna, en faisant le djihad au shaitan, le djihad aux mauvaises qualités, etc., aux défauts, pour les faire départir de chez nous, c'est là que on se corrige et c'est là que on aura toutes les bonnes qualités et les vertus. Et alors, je vais dire à la personne qui vient de dire maintenant que tu peux chasser le naturel et il revient au galop, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai, c'est quand la personne faiblit. Quand la personne faiblit et que sa foi devient faible, elle commence à yani, ne pas appliquer et à donner libre cours même à tout ce qu'elle veut faire, etc. Et ses défauts vont refaire surface. Ces défauts vont refaire surface. Mais quand la personne, à la fois bien imprégnée dans le cœur et bien ancrée, elle suit beaucoup la sunna, elle s'éloigne de tout ce qui est haram, elle s'éloigne de tout de toutes les mauvaises habitudes que nous a montré le messager d'Allah. Alors quoi? Alors, même le naturel, le faux naturel, ne revient pas. Il ne revient pas au galop. Il est bloqué par l'islam. Il est bloqué par les hadiths du messager d'Allah. Il est bloqué. D'ailleurs, lisez le verset où Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, il a dit Sibrat Allah. Sibrat Allah. Sibra, en arabe littéraire, c'est quoi? C'est la teinture. La teinture. Subhanallah. Pourquoi il a la teinture? C'est comme si une maison, comme une ancienne maison, subhanallah, et on va la peindre au point où on ne va plus la reconnaître. Les gens, quand ils vont passer, ils vont dire subhanallah. Cette maison, yani, qui l'a construite? On va dire non, c'est une ancienne maison, mais on vient de la repeindre. En l'ayant repeint, cette maison, elle a pris une nouvelle forme, au point où on ne l'a pas reconnue. La même chose, la personne. Une personne qui rentre en islam, elle doit se teinter. Avec quelle teinture? Avec la teinture d'Allah. Sibrat Allah. Wa-man ahsanu min Allah sibra. C'est pour ça que c'est dommage, beaucoup de gens rentrent en islam, mais ne change pas de teinture, reste toujours avec leurs mauvais défauts, avec yani, avec leurs mauvaises habitudes, yani, qu'est-ce qu'il a dit ici? Nous suivons Allah et qui aime Allah, c'est lui que nous adorons. Non, mais tu n'as pas cité le verset où il a dit c'est Sibrat Allah. Mais beaucoup de gens rentrent dans l'islam, mais comme j'ai dit, ils n'enlèvent pas leurs défauts, ils ne se teintent pas, ils restent avec leurs défauts. Quand ils parlent, ils disent de mauvaises choses, ils voient de mauvaises choses, ils font de mauvaises choses. Ceux-là, même, ils n'ont pas pu se teinter avec de l'islam, la lumière de la sunna. Plus tu apprends l'islam et tu appliques, plus tu te teintes avec la teinture d'Allah Azza wa Jal, et plus tu éloignes de toi tous les défauts, etc. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam. J'espère que vous avez compris. Allah Ta'ala a'lam. Tfadla.
Alors maintenant, c'est la question du frère Abu Ahmed. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur de 16 ans vient de porter le djilbab. Depuis cela, ses parents ne lui parlent plus et ils disent que celle qui porte le hijab ou le djilbab renie leur liberté et elle a peur d'être mise à la porte. Quel serait votre conseil? Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dis-moi seulement oui ou bien non. Est-ce que tu as employé le mot? Tu as dit renie la liberté. Est-ce que tu as dit comme ça? Renie la liberté. Non. Une personne qui a mis le djilbab, c'est une personne qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et en le mettant, ça ne va pas être facile. Elle sait que c'est un djihad qu'elle va faire. Et que on va pas lui applaudir, mais qu'au contraire, c'est une fitna. Et Allah Ta'ala veut l'éprouver pour voir si elle va, Inch'Allah Ta'ala, persister dans son chemin, ou bien elle va vite le jeter et dire, là, c'est mes parents qui ont raison. C'est pour ça que elle doit faire le maximum pour, Inch'Allah Ta'ala, rester debout et pour insister jusqu'à ce qu'elle voit que c'est vraiment yani khlas, elle est dans, disons, yani, elle risque d'être expulsée, elle risque d'aller vivre dans la rue, etc. Mais tant que yani, on n'a pas décidé encore d'expulser, non, elle va pas dire j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Elle maintient la pression, elle maintient Allah, et quoi? En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir les cœurs de ses parents. Non. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'elle dit ici? Qu'elle dise à ses parents, puisqu'ils ont monté le microphone. Je crois qu'elle a fait ça. Non. Et quand vraiment elle sait que, classe, on lui a dit, tu choisis entre ton djilbab et la rue, là, Inch'Allah Ta'ala, elle repose sa question et elle aura une réponse, bi'idhna azzawajal. Donc elle essaye de parler avec leurs parents, avec ses parents, de parler gentiment, d'essayer de leur expliquer, d'essayer de leur dire, je ne vous ai demandé ni argent, ni voiture, ni palais, ni avion. Je vous demande seulement, yani, de me laisser, yani. Je suis convaincu par cette chose. Hein. Je ne suis pas le genre de fille qui vous font des problèmes, qui est toujours avec les hommes, avec la drogue, avec ceci, avec cela. J'ai décidé seulement de mettre cette chose et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez-moi tranquille, barakallahu fikoum. Elle fait des doigts. Ensuite, si on veut l'expulser, elle repose sa question et elle aura une autre réponse, inshallah ta'ala. Tfadal.
Akhir Ghuraba, tfadal, inshallah. Problème avec elle.
Salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend bien? Alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Donc la question sur InSpeak, c'est la question de Oumou Abdillah. Donc, la question, Shir. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Lors d'un de vos cours, j'ai entendu que vous disiez que lorsqu'on arrive au masjid pour la Jumu'ah, si on constate que l'imam a commencé la khutbah, on n'a pas à faire les deux rak'at de salutation et qu'il est préférable de s'asseoir pour écouter le prêche. Pouvez-vous me confirmer si j'ai bien compris? Est-ce que nous devons faire ou non les deux unités de prière si l'imam est en train de faire la khutbah? Et yani, s'il est sur le minbar. Jazakumullah khair, cher.
Je demande d'abord à celui qui vient de lire la question ou à celui qui l'a posée. Est-ce que j'ai bien entendu la question? Est-ce qu'il a dit qu'il a entendu dans un de mes cours que je disais que lorsque l'imam était sur le minbar, qu'on ne devait pas faire la salat et qu'on devait s'asseoir? Confirmez-moi d'abord si c'est ça la question. Il a dit c'est ça. Réponse, justement, c'est étonnant. Il faut dire que vraiment, c'est étonnant. Et que, dans tous les cours que je fais depuis 5 ou 6 ans, j'insiste beaucoup pour dire qu'aucune personne n'a le droit de s'asseoir. J'insiste et je redis dans tous les cours. Est-ce que vous avez compris? Est-ce ceci, est-ce cela? Il ne doit pas s'asseoir, doit ceci, doit cela. Et maintenant, cette personne dit qu'elle a entendu que j'ai dit qu'il fallait s'asseoir. C'est vraiment étonnant. Naam. Et à chaque fois, je cite le hadith. Dans le même cours, je cite le hadith. Je dis que le messager d'Allah a vu quelqu'un rentrer. Naam. Il lui a dit, est-ce que tu as fait deux rak'at? Il a dit non. Il lui a dit, lève-toi, fais-le maintenant. Ensuite, il s'est adressé à tout le monde. Il leur a dit, si quelqu'un de vous vient à Yom Jumu'ah et l'imam est sur le minbar, qu'il ne s'assoie pas, mais qu'il fasse deux rak'at et qu'il les fasse vite. Et je dis hadith rapporté par muslim. Donc cette personne, yani, qui a entendu le contraire, c'est que vraiment, yani, c'est vraiment étonnant ce qui s'est passé. À moins que la cassette, yani, ne contienne pas toute la phrase. Il y a des choses qui ont été effacées ou quelque chose comme ça. Sinon, il faudrait qu'il nous donne l'extrait où il a entendu ça, pour qu'on corrige, car c'est très grave et ça peut induire les gens en erreur. Très bien, Inch'Allah.
Donc on revient sur le Pal Talk. Ici la question de Zainab 43. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur peut-elle donner des cours, sachant que ces cours viennent d'audio de tout label ilm qu'elle prend par écrit? Peut-elle les transmettre aux sœurs? Très bien, cher.
Afouane, je n'ai pas entendu la question, tu peux répéter. Ensuite, si tu peux garder toujours le micro sur l'InSpeak, garde-le. Comme ça, quand je réponds sur Paltok, toi tu diffuses, Inch'Allah Ta'ala, en direct. Tfadal.
Alors, je répète la question, Inch'Allah. Une sœur peut-elle donner des cours, sachant que ces cours viennent d'audio de tout label ilm qu'elle prend par écrit? Peut-elle les transmettre aux sœurs? Tfadal, cher.
Vous m'entendez, Inch'Allah Ta'ala? Naam, alhamdulillah. Elle peut pas, si elle n'a pas le moyen, si elle n'a pas le niveau requis, elle peut pas. Pourquoi? Quelle est la différence entre lorsqu'elle elle fait des cours de cassettes de Talabat al-Ilm ou bien de savants, ou bien de livres. Elle lit ce qu'il y a dans un livre et elle fait les cours. Il n'y a pas de différence. Non. Ce qu'elle doit faire, non, c'est si elle veut, elle leur fait écouter. Elle leur fait écouter la cassette. Non. Et après, ils peuvent discuter entre eux comme ça, mais pas faire le cours. Parce qu'en faisant le cours, elle doit expliquer. En expliquant, elle doit ajouter des choses. En ajoutant, elle va déformer sans se rendre compte. Non, en lisant, vous savez, si je prends un livre et je commence à lire. Je commence à lire. Ensuite, si je lis mot à mot, je dis, c'est comme un perroquet, ce qu'il y a dans le livre. Ça, je n'ai rien fait. C'est l'auteur du livre qui a parlé. Moi, j'ai parlé à sa place, mais c'est lui qui est en train de parler ici. Et maintenant, si je commence à expliquer, j'explique d'après ce que j'ai compris moi, alors que il est possible que l'auteur n'a pas voulu dire cette chose. Il a voulu dire autre chose et que je n'ai pas compris. C'est pour ça que j'ai peur pour la sœur que, sans le vouloir et avec une bonne niya, elle peut inculquer aux choses, aux gens, des choses fausses. C'est pour ça que j'ai dit, sauf au début, vous m'avez entendu, j'ai dit, si elle a un niveau requis, Inch'Allah Ta'ala. Naam, tafadhal.
Naam, donc nous passons à la question de Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien, qu'Allah vous préserve. Amin. Je voulais savoir si vous avez une réponse à ma question que je vous avais posée il y a quelque temps, concernant le fait d'acheter des appartements en Algérie, entre parenthèses, la clé, sans acte de propriété, en sachant qu'en général, ces appartements appartiennent à l'État. Barakallahu fikoum. Tfadal shir.
La réponse à cette question se trouve dans une fatwa que je n'ai pas ici devant moi, mais que, inshallah ta'ala, dans le prochain dos, je vous la lirai, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Naam. Tfadal, inshallah, le prochain.
Donc on va passer à une speak, shir. Avec la personne, c'est Khalid, 19865. La question, shir, salamu alaikum. Kayfa halukum ya shir? Vous m'entendez mieux maintenant, inchallah? Parce que je suis un peu malade, j'ai la voix qui est pas très. Alhamdulillah. Salam alaikum shir, kayfa halukum? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'après la prière des Tarawih, sera considéré qiyam al-layl après la sortie avec l'imam. Cette sortie de la prière ou de la mosquée, c'est une question, cher. Est-ce que Qiyam al-Layl est considéré à partir du moment où c'est après la sortie de l'imam, lui qui sort de, ou alors c'est de la sortie, la personne qui sort de la mosquée? Et avec les preuves, yani, avec des délais, cher. Tafaddal, cher. Barakallahu fikoum.
Pour dire la vérité, je n'ai pas compris la question. C'est quoi la question? Je n'ai pas comprise. Et il parle de quel hadith? De quel hadith parle-t-il? Tafaddal.
Non, cher. La personne pose la question par rapport au fait que quand on fait salat tarawih, le hadith dit que la personne, tuktab laha qiyam al-layl lamma yansarif al-imam. C'est ce qu'il voulait dire le frère. Et lui, il comprend pas ce que c'est yansarif al-imam. Il sort l'imam, ou alors c'est la personne cette sortie de la prière, c'est directement de la mosquée. Yani, il sort de la masjid. Allahu a'lam. Tafadhal, cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Maintenant je vois ce que veut dire la personne. Le messager d'Allah, alayhi salam, dans le hadith que la personne vient de citer, qui est un hadith authentique, bien sûr, dit que, si la personne reste avec, si le prieur reste avec imam jusqu'à Nam yansarif min salatihi ou an salatihi, Allah Ta'ala va lui compter comme s'il avait prié toute la nuit. Ici, il veut dire yansarif, ça veut dire termine sa salat. Il la termine. Le messager d'Allah veut t'exhorter à ce que tu continues avec l'imam la salat jusqu'à ce qu'il fasse le huître. Et non pas à ce que, jusqu'à ce que l'imam sorte de la mosquée. Car il est possible que l'imam termine la salat et reste dans la mosquée discuter pendant une heure ou deux. Ou bien il va manger qalbelouz et les zalabiya. Hein, tu envoies un kilo de qalbelouz et un kilo de zalabiya. Alors dans ce cas, tu vas rester toi jusqu'à une heure du matin, tu peux pas. Donc, quand il termine la salat, Inch'Allah ta'ala, c'est ça le sens du hadith. Si tu restes jusqu'à ce qu'il dise salam alaykoum, tu auras toute la nuit bi'idnillahi azza wa jal. Tfaddal Inch'Allah ta'ala.
Donc c'est la question de Minhaj Salafi Sahih. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous expose le cas d'une sœur Inch'Allah. Étant seule avec mes trois enfants, j'ai décidé de passer mon permis de conduire. Il y a de ça moins d'un an, afin d'avoir plus de facilité et de ne plus dépendre de mes amis, à m'accompagner ici ou là. J'ai réussi mon examen de code, j'ai déjà fait un certain nombre d'heures de conduite et j'ai arrêté momentanément. Mais j'ai commencé à porter le sitar depuis un mois environ, et je ne sais pas si je dois ou non continuer la conduite, tout en sachant que lors des cours de conduite et lors de mon examen, je serai obturé. Entre parenthèses, le sitar. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh.
La réponse, Inch'Allah ta'ala, est très simple. Si la personne a mis le sitar avec dans l'intention que le sitar est une obligation, dans ce cas, elle n'a pas le droit de le retirer. Elle doit continuer à le mettre jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais le montrer, et ne jamais le montrer devant des étrangers. Mais si la personne a mis le sitar avec dans l'intention que c'est seulement recommandé, comme dit Cheikh Al-Albani Lahmou, dans ce cas, elle le met quand elle veut et elle l'enlève quand elle veut. Quand elle le met, elle a des ajr, et quand elle l'enlève, elle n'a pas de péché. Naam. Voilà la réponse, Inch'Allah ta'ala. C'est d'après avec quelle intention elle a mis le sitar. Tfadl.
Naam, donc là c'est la question de pour apprendre. Une question un peu longue, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Je vous pose une question sur le fait d'invoquer pour un parent mort. J'ai perdu mon père il y a un an de cela et il est mort sans faire salat. Il n'a jamais prié et lorsqu'on lui parlait de prier, il donnait des excuses comme son incapacité à se prosterner, le fait qu'il était incontinent. On lui a déjà expliqué les facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait données dans ces cas-là, mais il a refusé d'accepter. Il a déjà eu des paroles contraires à l'islam, entre parenthèses, au sujet du jour du jugement, de la vie après la mort. Mais je sais qu'il était très ignorant, n'a eu aucune éducation religieuse et a été orphelin très jeune. Allah, jeûner le mois de Ramadan, se rappeler souvent de la puissance d'Allah, dans différents événements, et prononcer la shahada régulièrement. Je me demandais, Naam, c'est le père de la personne, chère, c'est le père. Je me demandais, est-ce qu'il m'est permis quand même d'invoquer pour lui, malgré le fait qu'il ne priait pas et qu'il avait beaucoup de paroles contraires à l'islam de son vivant. Tfadal, chère.
Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Vous savez, les savants disent que il y a quelque chose qui s'appelle en islam ma'loumun min ad-din bid-darura. Il y a une chose que les savants disent, ils disent d'elle, cette chose rentre dans le ma'loumun min ad-din bid-darura, connu à peu près, connu par l'islam par une nécessité. Il y a des choses, c'est-à-dire que un musulman ne doit pas négliger. Et tout musulman doit savoir. Il faut rentrer dans cela qu'il y a quelque chose qui s'appelle salat, qu'il y a quelque chose qui s'appelle siyam, il y a quelque chose, on ne doit pas doit aller au hajj, etc. Ce sont des choses que tout musulman doit connaître. Mais malgré cela, les savants disent que cette règle est relative. C'est-à-dire que il y a des moments non, où il y a la chose qui est connue chez tout le monde n'est pas connue chez d'autres. Il y a des endroits aussi, des endroits, des pays ne sont pas les mêmes, les temps ne sont pas les mêmes, les gens ne sont pas les mêmes, les situations ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que, par exemple, si vous, ça, vous devez, je ne sais pas si vous en faites ça, par exemple, nous, nos grands-parents, par exemple, moi, mon grand-père, par exemple, l'Ermo, mon grand-père, par exemple, c'était au temps de la France, au temps de la colonisation, l'Algérie était colonisée par les Français. Au temps de la colonisation, il y avait très, très peu de gens qui faisaient la prière. Pourquoi ? Les mosquées étaient désertées, isolées. Il n'y a pas celui qui t'apprend l'islam, il n'y a pas celui qui te parle de din. On ne parle que... L'Algérie, c'était comme la France. On ne parle que de discothèques, d'alcool, de femmes et comme ça. C'est pour ça que beaucoup de gens sont morts sans faire la prière. Sans faire la prière, il n'y avait pas ceux qui leur parlaient, ceux qui leur montraient, etc. Et moi, ce que je veux dire, je résume en disant à cette personne, toi, Inch'Allah Ta'ala, tu ne perds rien en mettant dans ton cœur que ton père, Naam, était un... Et que, il ne faisait pas... il n'a pas fait exprès, mais c'est le djihad et l'ignorance qui lui ont fait cela. Ils lui ont fait cela. D'ailleurs, tu vois qu'il jeûnait. Si c'était un kafir, il ne va pas jeûner. Il va dire, il n'y a ni prière, ni jeûne, ni rien. Celui-là, déjà, il jeûnait, Naam, mais il avait des choubouettes. On se concerne la salat, ou bien on se concerne des jours de jugement dernier, etc. Toi, Inch'Allah Ta'ala, tu demandes à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il fasse, qu'il soit de ceux qui étaient ignorants, et de ceux qui, n'ont pas vraiment, reçu cet islam, et ne l'ont pas appris, ni l'ont connu, et profite, Inch'Allah Ta'ala, pour lui faire des doigts. Si ces doigts arrivent, alhamdulillah, si elles sont annulées et n'arrivent pas, tu n'as rien perdu, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Tfadl, Inch'Allah, le suivant.
Assalamu alaikum, c'est autour de InSpeak, Inch'Allah. Donc, c'est Ibn Mustafa. Assalamu alaikum, une femme enceinte de 9 mois est très faible et ne peut pas jeûner. Que doit-elle faire comme compensation, sachant qu'après l'accouchement, elle souhaiterait allaiter le bébé? Barakallahu fikum. Tfaddal cheikh.
Une femme, Inch'Allah Ta'ala, qui est enceinte, si elle a peur pour elle-même, ou bien elle a peur pour son bébé, dans ce cas, elle mange, Inch'Allah Ta'ala, et elle nourrit un pauvre pour chaque jour qu'elle a mangé. Elle mange et elle nourrit un jour, un pauvre pour chaque jour qu'elle a mangé. C'est la vie qu'Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, et la vie de Cheikh al-Albani, Allah yarhamou. Naam. Allah azza wa jalla a'lam. Tfadl, le suivant.
Donc c'est la question de Ridaz. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelles sont les conditions pour faire taqsir al-salat? Barakallahu fikoum. Tfadl, Cheikh.
J'ai dit que je n'ai pas entendu la fin. J'ai entendu seulement quelles sont les conditions de là. C'est tout. J'ai pas entendu la quoi.
Non, afwan, Cheikh. Les conditions pour faire taqsir al-salat. C'est bon, cher, vous avez entendu, Inch'Allah. Tfadal, Inch'Allah.
Wa alaykoum salam, rahmatullah. Pour faire taqsir al-salat, il faudrait faire un voyage. Si on n'a pas fait un voyage, on ne peut pas faire taqsir al-salat. Et certains ont ajouté, il faudrait que le voyage soit permis. Il ne faudrait pas que ce soit un voyage de haram. Mais dans cette deuxième condition, il y a divergence. Et la vie plus juste, c'est l'essentiel d'avoir fait un voyage. L'essentiel, c'est d'avoir voyagé. Reste le voyage. C'est combien sa distance? Il n'y a rien de précis en cela. C'est pour cela que les savants ont divergé. ils ont dit que l'avis le plus juste, c'est de dire que yani, c'est l'orf. On doit revenir aux habitudes des gens pour décider de dire est-ce que cette distance, c'est un voyage ou bien ce n'est pas un voyage. Sinon, si on va yani, venir au kilométrage, on ne va pas trouver un consensus. Certains ont dit 80, d'autres ont dit 85, certains ont dit il faudrait qu'elle voyage toute une journée, d'autres ont dit toute une journée et une nuit, d'autres ont dit 25 km, d'autres ont dit 12, et comme ça. Là. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est d'avoir voyagé. Imagine, quand tu es absent et que, par exemple, on vient te chercher à la maison. Est-ce que ta femme va dire mon mari est en voyage ou bien elle va dire mon mari vient juste de descendre à Marseille parce que c'est à 20 ou 30 kilomètres ou bien elle va dire il est en voyage. Si elle dit il est en voyage, ça veut dire que cet homme peut raccourcir sa salate. Mais s'il est juste dans les parages, il n'est pas en voyage. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal.
Non, donc c'est la question de Bismillah 25. Salam alaikum. Une personne musulmane rapporte qu'elle peut communiquer avec son père défunt, rahmahullah, et que ce dernier lui prédit l'avenir. Elle lui donne des conseils. Wal'iyadu billah. Pourriez-vous lui faire un rappel sur les dangers de ce genre de sorcellerie et les peines que cette personne encourt dans l'au-delà, inshallah. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Non, cette personne, est-ce que c'est, j'ai bien entendu, prétend communiquer avec son père l'arme. Elle communique avec son père. Dans, en étant conscient, ou bien quand elle dort, dans les rêves. Tfadal.
Donc Bismillah 25, et je vous ai enlevé le raid, Inch'Allah, et répondez directement sur la room. Est-ce que c'est durant le sommeil? En étant consciente. Naam, tfadal cheikh.
Naam, en étant conscient. Donc cette personne ne sort pas de l'un des deux cas. Le premier cas, ou bien cette personne est une menteuse. Elle sait que ce n'est pas vrai, et elle fait cela, elle dit cela. Allah Ta'ala sait pourquoi, moi je sais pas. Ou bien pour la réputation, ou bien pour l'argent, ou bien pour se faire remarquer, ou bien. Ça, seul Allah Azza wa Jalla le sait et elle le sait. Et le deuxième cas, où elle n'est pas menteuse, mais que vraiment, hein, il y a quelqu'un qui lui parle, etc., qui lui donne des conseils, etc. Dans ce cas, hein, dans ce cas, Bidna Ta'ala, cette personne qui dit que mon père communique avec moi, etc., cette personne elle-même est possédée par un shaitan. Allah Ta'ala dit dans le Coran, هل أنبئكم تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. نعم. Cette personne étant possédée par un shaitan, alors ce shaitan va faire venir un autre shaitan et lui donner l'ordre de venir sous la forme de son père. نعم. Et, bien sûr, ça c'est très grave. Et la deuxième chose la plus grave, c'est que le shaitan va lui faire croire que cette personne qui soi-disant est son père prédit l'avenir. Or toute personne qui va chez quelqu'un qui prédit l'avenir, quoi, comme a dit le hadith, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, est devenu mécréant, a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad alayhi sallam. Qu'est-ce qui est descendu sur Muhammad alayhi sallam? Le Coran. Et qu'est-ce qu'il y a sur le Coran? قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dit, personne dans les cieux et la terre ne connaît l'avenir sauf Allah. Et celui-là, il dit que cette personne connaît l'avenir, donc elle a mécru au Coran. Elle a dit, le Coran n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon père connaît l'avenir. Donc ça veut dire qu'elle est devenue kafira. C'est très grave. C'est pour ça que je donne un conseil à cette personne, je ne sais pas si elle m'entend, de ne pas laisser le shaitan jouer d'elle. Si cette personne meurt dans cet état, c'est trop tard pour elle. Vraiment trop tard pour elle. Personne ne pourra la sauver demain. Et le shaitan lui-même se désavouera d'elle demain devant Allah. Il va lui dire, Ya Allah, moi, c'est ça mon travail. Moi, j'ai fait ça, mais je ne l'ai pas forcé. C'est elle qui me poussait à ce que yani, je lui vienne comme ça dans les rêves, dans son esprit, dans cela. Je ne l'ai pas poussé. C'est elle qui me demandait. C'est un peu comme les gens, et les jeunes et qui font quoi? Qui font, yani, ils s'assoient autour d'une table et ils joignent comme ça leurs mains, leurs doigts, et ils disent, esprit es-tu là, esprit es-tu là. Et ils mettent un verre comme ça, ils voient si le verre va commencer à bouger. Et dans la plupart des cas, le verre va bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit que tu as appelé le shaitan, il va dire, puisqu'il y a des gens qui me demandent, moi je ne cherche qu'à être engagé pour travailler, alhamdoulilah. Il y a une clique ici qui me demande. Et il va faire bouger le verre un peu à droite, un peu à gauche. Il va les faire rire, etc. Ensuite, quoi? Ensuite, il va posséder l'une des personnes. Il va choisir peut-être la plus belle qui est entre elles. Et il va la posséder. Ensuite, elle va demander la ruqya. Elle va courir, aller chercher chez les gens. Donc, je demande à cette personne, l'âme, de craindre Allah Azza wa Jal. Elle fait vraiment quelque chose de grave, l'âme, chez Allah Azza wa Jal. Si elle meurt dans cette situation, c'est vraiment très grave pour elle, qu'elle craigne Allah Azza wa Jal et qu'elle se désavoue du shaitan et qu'elle fasse la tawba. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le tout miséricordieux, c'est lui le grand miséricordieux. Fadal.
Salam alaikum. On passe à une explique, Shir. Donc, je reprends par rapport à tout à l'heure, Shir. La personne a demandé plus d'explications pour la femme enceinte. La personne demande plus de précision, c'est-à-dire nourrir le pauvre après ou pendant le ramadan, la quantité à donner aux pauvres et qui on peut considérer comme pauvre. Yani. Ça, c'est par rapport à l'autre question. Ensuite, on a la question du frère Ibn Aiz qui demande « Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Yashir, qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà. » Et dans l'au-delà, pardon. Et multiplie vos hasanettes. Ma question portait sur les femmes et leur lien avec le djilbab. S'il y a des invocations mais qu'elles ne mettent pas le djilbab, ces doigts sont-ils obligatoirement refusés? Ou bien est-ce une cause majeure de non-exaucement de ces invocations? Barakallahu fikoum ya shir, qu'Allah vous récompense par le firdaus. Tfaddal shir.
Alaykoum salam wa rahmatullah. On commence par la femme enceinte. Non, la femme qui est enceinte doit nourrir pour chaque jour qu'elle a mangé un pauvre. À condition que, j'ai bien dit à condition, qu'elle ait peur pour elle ou bien pour son bébé. Sinon, bien sûr, elle n'a pas le droit de manger, mais elle doit jeûner comme tous les musulmans. Maintenant, supposons qu'elle a des excuses, quand est-ce qu'elle va nourrir? Elle va mourir, elle a tout le temps devant elle, avant que l'autre ramadan arrive. Hein? Elle peut mourir le même jour. Par exemple, aujourd'hui elle mange, hein? Le même jour, le soir, elle fait manger quelqu'un. Comme elle peut le faire le lendemain, comme elle peut le faire après le mois de ramadan, comme elle peut le faire à Chouel, n'importe quel mois. L'essentiel, c'est que il faut pas que l'autre ramadan arrive. Deuxièmement, combien qu'elle fait mourir? Allah Ta'ala n'a pas dit combien qu'on doit faire mourir. Il a dit, on doit le faire mourir jusqu'à ce que, yani, comme on mange nous. Il a dit, du moyen qu'on mange. C'est-à-dire, quand on veut nourrir un pauvre, on le nourrit jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim, au moins une fois. Une fois, c'est ça mourir. C'est comme si j'invite quelqu'un à un restaurant et il mange jusqu'à sa faim. Je lui dis, tu n'as plus faim? Il me dit, j'ai plus faim. Il lui dit, donc j'ai nourri un pauvre. Non. Ensuite, ce n'est pas obligé de le nourrir dans le pays où on est. Puisque, en France, par exemple, il n'y a pas beaucoup de pauvres, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'argent dans un autre pays. On envoie l'argent au Maroc, ou bien en Algérie, ou bien en Égypte, ou bien en Libye, ou bien au Yémen. À quelqu'un qui est ferra, qui est fiable, on lui dit, allez, voilà, prends cet argent et choisis là-bas 10 pauvres et tu les nourris. Ou bien en les invitant à la maison, ou bien en les invitant dans un restaurant, ou bien, et comme ça. Non, le pauvre doit être musulman. Naam, les savants ont dit, il peut ne pas être musulman vraiment quand c'est, il y a un cas de nécessité. Mais on doit toujours commencer par un musulman. Et autre chose que je voulais dire, et on n'est pas obligé, si on a par exemple 10 pauvres à nourrir, on n'est pas obligé de les nourrir, ils 10 à la fois. Aujourd'hui j'ai nourri un, la semaine prochaine un autre, dans 2 mois un autre, et comme ça, et je compte sur un petit carnet, je compte combien j'ai fait nourrir de pauvres. Non. Donc c'est comme ça qu'on fait, Inch'Allah Ta'ala. Et moi ce que je faisais des fois aussi, et c'est la chose la plus facile, Allah Azza wa Jal Alam, c'est quoi? C'est, je le faisais des fois au Koweït, je vais chez un restaurant que je connais. Et vous pouvez le faire aussi. Tu connais quelqu'un déjà, tu vois que c'est un musulman, il est connu, il a la barbe, il a ceci, je sais pas, c'est un voisin, il a un resto. Tu lui dis quand quelqu'un vient manger chez toi, c'est combien par exemple un repas? Par exemple, il me dit, par exemple, il me dit 5 euros. Je lui dis donc voilà 50 euros, et barakallahu fik, fais-moi nourrir 10 pauvres. Quand tu vois 10 personnes et qui apparemment paraissent qu'elles sont pauvres, hein, à chaque fois qu'une personne mange, tu lui dis c'est pas la peine de payer, c'est payé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est en mon nom, et comme ça, il a un petit carnet et il barre. À chaque fois, il barre. D'ailleurs, même lui, ça lui plaît. Ça lui plaît que tu lui donnes comme ça directement, yani, de faire payer à 10 personnes, yani, 10 clients. Même lui, ça lui fait plaisir. Allah Azza wa Jal alam. Tafadhal.
Donc, c'est la question de le grand frère. Salam alaikum. Je voudrais savoir si une petite fille de 8 ans peut aller à la piscine en France en maillot de bain, dans une piscine mixte ou sinon dans une piscine où il n'y a que des filles. À partir de quel âge la fille doit cacher sa haoula, ses parties cachées? Barakallah fekoum shir, qu'Allah ta'ala vous élève en degré au paradis. Amin. Tfadal shir. Ah, afwan. Non, mais j'avais oublié, khirou là-bas. Afwan. Tfadal shir. Ou alors, alors là-bas pour rappeler, Inch'Allah.
Il n'y a pas de mal. En fait, Cheikh, il n'a pas répondu à la question du frère. Il a répondu à Ibn Mustafa, mais pas à Ibn Waiz. Par rapport donc à la personne qui n'a pas de jilbab et qui fait des doigts. Et en fait, ils ne sont pas exaucés ces doigts. C'est la question qu'on avait posée tout à l'heure. Barakallahu fikoum. Je répète la question, Cheikh. D'accord. Tfadal, Cheikh.
Non, alhamdoulilah de m'avoir fait rappeler parce que j'ai oublié. Non. En fait, celle qui ne porte pas le djilbab se divise en deux. Il y a celle qui ne le porte pas, non, parce qu'elle croit que il n'est pas obligé. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Elle se dit, par exemple, un foulard et une tunique, ça suffit. Et Allah Ta'ala n'a pas dit que, yani, il faut djilbab et comme ça, on lui a appris ça. Non. Et il y a un deuxième qui sait que c'est le djilbab qu'il faut, mais non, elle dit il y a des contraintes, il y a ceci, il y a cela, cela. Et le moins, ce que je veux dire, c'est que le messager d'Allah a dit que, par exemple dans un hadith, que la personne à laquelle, par exemple, on faisait une injustice, que si elle faisait une doua, que Allah Ta'ala lui exaucerait les doua, même si elle était perverse. Cheikh Al-Albani, dans Sahih Al-Jami', a authentifié un hadith où il est dit, non seulement, même si la personne est perverse, il a dit, même si la personne est kafir. Kafir. Ou l'homme min kafir. Subhanallah l'azim. Donc même un kafir, vous voyez ce que c'est un kafir, qui est contre l'islam, qui adore la statue, si tu lui fais mal, il fait une doua contre toi, Allah Ta'ala peut lui exaucer sa doua si Allah Ta'ala veut. Si quelqu'un va dire, mais Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa ma doua ul kafirina illa fi dalal, que les doua des kuffars, yani, sont dans l'égarement, c'est-à-dire ils ne sont pas exaucés. On va dire, ça c'est vrai, il a dit ça, mais il ne parle pas des doua des kuffars dans la dunya. Il parle des doua des kuffars dans l'au-delà, quand Allah Ta'ala va les mettre en enfer, et ils commencent à faire des doua pour demander à Allah Ta'ala de les faire sortir de l'enfer. Là-bas, Allah Ta'ala répondra, « Wa ma du'a ul kafirina illa fi dalal » va dire, « Je ne vais pas répondre, leurs du'a sont dans l'égarement. » Mais ici, dans ce bas monde, yani, même si un kafir a l'injustice, il fait une du'a contre toi, Allah Ta'ala peut lui exaucer soit sa du'a et te donner un malheur. Donc, je dis à cette personne, même qui fait des du'a, etc., cela dépend, yani, c'est quoi son... Qu'est-ce qu'elle pense du djilbeb? Qu'est-ce qu'elle pense du djilbeb? C'est pour ça que yani, la réponse varie d'une personne à l'autre d'après. Yani, c'est quoi? Yani, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Ensuite, en général, le fait qu'elle porte le djilbeb ou qu'elle ne le porte pas, naam, yani, c'est séparable, ça se sépare du fait de faire des doigts. Et si on va dire, si elle ne porte pas le djilbeb, donc ses doigts vont s'arrêter, dans ce cas, on va dire, pourquoi seulement le djilbeb? On va dire, si elle ne fait pas tout ce que Allah Ta'ala a dit, alors dans ce cas, elle ne va pas être exaucée. Or, c'est impossible. Et je peux dire à chaque fois, c'est fini, mais cancer. Tu peux dire que la sœur qui ne met pas à un cancer et qu'en fait elle demande la guérison, est-ce que ça peut empêcher Barakallahu fikoum? Naam, si elle est sincère avec l'Osman, Allah Ta'ala peut la guérir, même si elle n'a pas mis le djilbeb, et pour le djilbeb, il peut la punir pour ne pas avoir mis le djilbeb, et la guérir pour avoir fait des doigts. Chaque chose est séparée de l'autre. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَارَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَارَهُ. Pour avoir fait des doigts avec yani, sincérité, etc., et khushu, etc., Allah Ta'ala peut lui exaucer, et pour ne pas avoir mis le hijab, le djilbab, Allah Ta'ala peut la punir يوم القيامة. Donc qu'elle fasse des doigts, et nous aussi qu'on nous fasse des doigts pour que Allah Azza wa Jalla guérisse yani, et on lui souhaite un prompt rétablissement, et on lui fait des doigts pour que Allah Ta'ala referme son cœur et qu'elle mette le djilbab. Tafadhal.
Amin. Donc je répète la question de le grand frère. Salam alaikum. Je voudrais savoir si une petite fille de 8 ans peut aller à la piscine en France en maillot de bain, dans une piscine mixte, ou sinon dans une piscine où il n'y a que des filles. À partir de quel âge la fille doit cacher sa awra, c'est-à-dire ses parties cachées? Barakallahu fikoum shir, qu'Allah Ta'ala vous élève en degré au paradis. Tafadhal shir.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si on veut réussir avec nos enfants, il faudrait comme ça, jeunes, leur apprendre les principes de l'islam. Et leur apprendre comme ça, jeunes, comment s'éloigner du haram. Sinon, si elles grandissent, ou s'ils grandissent, c'est très difficile alors, quoi, d'essayer de les corriger. Naam. Il faut rappeler à celle qui vient de poser la question, que notre mère, Aïcha, radiallahu ta'ala anha, à l'âge de 6 ans, elle était déjà mariée. 6 ans, pas 8. À 6 ans, classe, elle avait fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'acte. L'acte, ce qu'on appelle l'acte à la mairie. Elle l'avait fait à l'âge de 6 ans. Et à 9 ans, elle avait déjà consommé le mariage. Donc si elle a 8 ans, on lui apprend qu'elle est déjà âgée. C'est pas la peine de lui répondre en ce qui concerne d'aller dans une piscine mixte. Il a dit, ça n'a pas besoin de réponse. Je lui parle d'aller dans une piscine où il n'y a que des femmes. Même à 8 ans, on lui apprend qu'elle doit cacher sa aura. À l'âge de 6-7 ans, elle commence même à cacher sa aura en commençant à faire la prière à l'âge de 7 ans. On apprend à l'enfant que yani, c'est aïb de montrer cette chose, c'est aïb d'être avec telle ou telle personne, avec tel habit. Et comme ça, très jeune, on leur inculque les principes de l'islam qui commencent à avoir yani, de la pudeur à bas âge. Sinon, comme j'ai dit, C'est difficile après de les corriger, ce sera très difficile. Cette chose est rentrée dans leur cœur et c'est impossible de la faire sortir. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfadhal.
Assalamu alaikum. Barakallahu fikum, Cheikhouna. Je voulais juste vous rajouter quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de dire sur l'éducation des enfants et la pudeur. Moi, je connais un frère, il a 3 enfants, et ses enfants, le plus petit il a 3 ans, le plus grand il a 7 ans. Ses enfants, quand ils se déshabillent, ils se cachent les uns des autres. Et un jour, le frère, il m'a dit, Abou Marwan, regarde, je vais te faire un test. Vous entendez pas bien? Je recommence. Et là, vous entendez mieux, Inch'Allah? Vous entendez mieux? Salam alaikum, vous entendez mieux? Je parle plus fort, Naam, je vais essayer, Inch'Allah. Je disais, je connais un frère qui a 3 enfants, ils sont petits, entre 3 ans et 7 ans, et il les a bien élevés, alhamdoulilah, sur la pudeur, et mashallah, ils ont beaucoup de pudeur, ces enfants, à tel point que ces enfants, ils ne se déshabillent jamais. Par exemple, il est habillé, il va mettre le pyjama, et ben l'enfant, il va dans sa chambre, il se cache. Ils se cachent les uns des autres et ils se cachent devant son père. Et un jour, le frère, il m'a dit, regarde, je vais te faire une expérience. Il a envoyé son fils dans la chambre. Son fils, il est en train de se changer. Le frère, il est rentré dans la chambre. J'entendais le petit presque, il allait pleurer avec des larmes. Abi, Abi, ferme la porte, sors, sors, Abi, tu me regardes pas. Subhanallah, 5 ans. 5 ans, presque, il pleure avec des larmes parce que son père, il va le voir, il a enlevé son pantalon. Et subhanallah, pourquoi je dis ça? Parce que, pour revenir à ce que vous dites, si une petite fille, depuis qu'elle est toute petite, on lui apprend, jamais tu te déshabilles devant un étranger, jamais tu te déshabilles devant un homme, jamais tu enlèves ton pantalon devant un garçon, jamais tu enlèves ton pantalon, jamais tu enlèves ton pantalon, jamais, 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 quand elle aura 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, l'âge où le zina il est répandu, elle va jamais l'enlever son pantalon, jamais. Ça, c'est quelque chose, il faut leur mettre dans le cœur dès tout petit, jusqu'à ce que dans son cœur, c'est quelque chose de grave, presque elle va en pleurer. Wallah al-Adim Shaykh, que le fils de ce frère-là que je vous parle, à 5 ans, il pleure avec des vraies larmes si son père, il le voit sans le pantalon. Subhanallah. Barakallahu fikum.
Naam, donc là, je pose la question de Shahinez. Donc, chère la sœur, je voudrais que vous l'éclaircissiez sur le sujet du divorce. Sur 2 circonstances différentes, Inch'Allah. Salam alaikum, Shir. Je voudrais savoir si le fait de dire à son épouse des phrases telles que « Tu n'es plus ma femme, retourne chez tes parents, dégage et prends tes affaires, casse-toi » signifie que l'homme vient de répudier sa femme. Ou il faut qu'il dise la phrase « Je te divorce » pour qu'elle soit répudiée. Et l'homme peut-il divorcer sa femme si elle refuse de porter le sital? Mais là, en fait, c'est juste pour éclaircir la sœur sur le divorce, c'est-à-dire si l'homme il fera pas, il maltraite pas sa femme, et que sa femme seulement elle refuse de porter le sital. Est-ce qu'il peut la divorcer? Et dernière petite chose, alors la sœur demande que vous répondiez à un mail. C'est une sœur qui attend une réponse par rapport au sujet du divorce. Mais par contre, je pense que vous devez avoir beaucoup de mails. Et il faudrait au moins avoir la cougnée de la sœur. Ou alors si elle avait mis un titre au mail qu'elle a envoyé au cheikh. Barakallahu fikum. Tfadal cheikh.
Comme je disais, en ce qui concerne des enfants, à bas âge, il faut les éduquer pour qu'ils prennent l'habitude de Inch'Allah Ta'ala et qu'ils prennent cette qualité, la pudeur, pour que la pudeur s'ancre dans leur cœur. Surtout que, vous savez tous que la fille grandit plus vite que l'homme. Tout le monde sait ça. Qu'une fille à 8 ans peut paraître une femme. Certaines filles de 8 ans, 9 ans, elle est mariable, classe. C'est pour ça que il faudrait faire beaucoup attention aux filles que aux garçons. On revient à la personne qui a dit que si on dit allez dégage, casse-toi, etc. Est-ce qu'il a divorcé sa femme ou pas? Premièrement, la personne qui dit à sa femme casse-toi, etc. Je sais pas comme ça les phrases, c'est une mafia. Hein, c'est Al Capone. Al Capone qui est revenu, hein, casse-toi là-bas, je te pique, je te machin, je te rase, je sais pas comment on dit ça. Hein, c'est Al Capone. Al Capone, la mafia, avec un revolver et un rasoir et un couteau dans la main gauche. Hein, casse-toi, sinon je te coupe ta tête. Un mohim. C'est pas ça l'islam. Non. Je dis, s'il lui dit casse-toi et va chez toi et ne reviens plus et dégage, etc. Si c'est avec l'intention du divorce, c'est un divorce. Non. Si c'est, il dit ça. Et dans son cœur, il dit, ça veut dire khlas, je veux plus d'elle, ça veut dire elle est divorcée. Non. Mais s'il lui dit va chez toi, jusqu'à ce que, par exemple, ça se calme, ou là, va un peu chez toi, laisse-moi tranquille. Non. Et qu'il dit que, yani, je voudrais que être loin d'elle, jusqu'à ce que je me calme, et que mes nerfs, yani, s'en vont, etc. Dans ce cas, ce n'est pas un divorce. Donc, cela dépend de qu'est-ce qu'il a dans l'intention. Car le messager d'Allah, a dit à une de ses femmes, hein, la première nuit où il devait consommer le mariage, il lui a dit quoi? Il lui a dit, va chez toi. Et c'était quoi? C'était un divorce. Il ne lui a pas dit, je t'ai divorcé. Il lui a dit, yani, rejoins ta famille. Là, ça veut dire, ils étaient divorcés. Et Ka'b ibn Malik, radiallahu ta'ala, a dit à sa femme, la même phrase, rejoins ta famille, et elle n'était pas divorcée. Pourquoi? Il lui a dit ça, yani, avec notre intention, on va chez toi le temps que on va voir ce qui se passe. Ensuite, toute phrase, comme disent les savants, toute phrase qui, on comprend d'elle le divorce, si on l'a dit cette phrase, non, ça devient divorce si on a l'intention dans le cœur. Toute phrase, lorsque tu l'entends toi, d'un homme, il l'a dit à sa femme, et on comprend que ça veut dire divorce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un divorce si cet homme avait dans le cœur l'intention de divorcer. Ensuite, pour le Gmail, c'est comme a dit le frère. Je ne peux pas savoir quelle est la lettre parce que il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et la plupart parlent du divorce. Il faudrait qu'elle yani, explique encore ou la donne un signe. Inch'Allah ta'ala. Naam, s'il lui dit tu n'es plus ma femme et il a dans le cœur que ça veut dire tu n'es plus ma femme parce que tu es divorcé, dans ce cas elle est divorcée. En islam, ce n'est pas obligé qu'il emploie le mot tu es divorcé, ce n'est pas obligé. S'il lui dit tu n'es plus ma femme avec dans le cœur parce que je ne veux plus de toi, je veux une autre, ça veut dire elle est divorcée. Naam. Et comme ça, toutes les phrases qu'il dit, si on comprend de ces phrases le divorce, avec l'intention, ça dirait de divorcer. Et l'éclaircissement du sitar. Quand un homme, nan, veut dire à sa femme, mets le sitar et qu'elle ne veut pas, etc., nan, il faudrait qu'il mette dans sa tête d'aller doucement avec elle. Que peut-être elle n'est pas de l'avis qui dit que le sitar est obligatoire. Et elle aussi, elle devrait mettre dans sa tête que, yani, peut-être que lui, a lu ou a entendu quelque chose et que maintenant il a dans son cœur que le sitar est obligatoire. Et dans ce cas, puisque il veut qu'elle le mette, alors qu'elle le mette comme obéissance à son mari. Tu as des ajr en obéissant à ton mari et tu as des ajr parce que tu as mis quelque chose que Allah Ta'ala aime. Naam. Donc c'est pour ça que yani, il faudrait s'asseoir, il faudrait parler, il faudrait discuter, il faudrait yani, communiquer pour trouver une solution. Pour trouver une solution. Non, mais ce n'est pas penser comme ça directement à divorcer. Divorcer parce que elle veut pas mettre le sitar et toutes les années comme ça sont parties. Toutes les années on a vécu, tous les enfants on va les disperser, on va. Non, ce n'est pas facile le divorce. Il faut bien réfléchir avant de divorcer, Inch'Allah. Naam. Pour lui, il n'est pas obligatoire. Naam, s'il n'est pas obligatoire, pourquoi donc il veut qu'elle le mette? Pourquoi donc il va la divorcer si elle ne le met pas? S'il n'est pas obligatoire, pourquoi il l'a divorcé pour une chose qui n'est pas obligatoire. Il est jaloux. S'il est jaloux, je donne conseil à la femme de le mettre. Son mari est jaloux, il veut qu'elle le mette, et surtout qu'il peut la divorcer si elle ne le met pas, je lui donne comme conseil de le mettre, inshallah ta'ala, pour yani, parer à ce problème et pour garder sa famille, inshallah ta'ala, yani, consolidée, bi'idnillahi ta'ala.
Non. On passe à une suite, inshallah. C'est la fille à 9. Alors, j'ai déjà demandé la question en PV, ça répond pas. Moi, je passe directement à la question suivante, Inch'Allah. C'est Al-Farlou Kiya. Alors, je vous ai laissé le temps tout à l'heure de écrire votre question, on va prendre celle d'avant. Voilà. Salafia 9. Salam alaikum. Shafak. Cheikhan al-Fadl. Sur le cours de la femme musulmane numéro 1, vous avez évoqué à la deuxième minute que le califat de Al-Hussein, fils de Ali, a duré 6 mois. Or, c'est Al-Hassan et non Al-Hussein. Et vous avez évoqué le califat de Muawiyah. Yani qui avait duré 40 ans, or c'était 20 ans. J'ai effectué des vérifications dans Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir et 200 questions-réponses de Cheikh Al-Hafid Al-Hakami, rahimahullah, et un livre sur les califats de Cheikh Al-Jamal Al-Khamis, qu'Allah vous récompense. Faudal, Cheikh.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'abord, je remercie cette personne, Inch'Allah ta'ala, qui veut nous montrer des choses où on s'est trompé, car nul n'est infaillible. Et ici, elle nous a montré deux choses. La première, elle a parlé de Al-Hassan. Elle a dit que, comme quoi moi j'avais dit Hussein, alors qu'il fallait dire Al-Hassan. Si c'est vrai, il faut revenir, je demande aux admins de revenir au cours, au premier cours et à la deuxième minute, comme elle a dit. Si vraiment j'ai dit le Hussein à la place de l'Hassan, il faut quoi? Il faut corriger Bin Ta'ala. Car c'est l'Hassan et non pas le Hussein. Et d'ailleurs, le hadith est clair que le messager d'Allah a dit que je souhaite que Allah Azza wa Jal fasse rétablir entre deux grandes factions, deux grandes, troupes de l'islam, et c'était lui qui s'est désisté du califat pour qui? Pour Muawiyah radiallahu ta'ala. Donc c'est le Hassan et non pas le Hussein. La deuxième des choses, elle a dit que c'est 20 ans, ce n'est pas 40 ans. Ça, Inch'Allah ta'ala, avant de le corriger, donnez-moi encore, Inch'Allah ta'ala, que je fasse moi aussi mes recherches. Je vais aussi faire des recherches. Si je trouve que la vie le plus sûr, c'est 20 ans et ce n'est pas 40 ans, on va le changer. Et je dis encore une fois à cette personne, Jazakillahu khayran. Tfadal.
Akhir ghuraba, tfadal, Inch'Allah. Akhir ghuraba, tfadal.
Non, baraklahu fik. Afoun, Cheikh. Donc la question, c'est la question de Bismillah 1986, parce qu'on a passé son tour tout à l'heure, on s'excuse. Salam alaikum, un frère, fillah, entendez-vous... Non, c'est pas ça, c'est ça, si. Un frère, fillah, entendez-vous à l'intérieur de sa tête. Il explique qu'il n'est pas l'auteur de ses paroles, et que plusieurs personnes parlent à l'intérieur de sa tête. Il lui insuffle des mauvaises choses, lui conseille le suicide, etc., Allah al-Musta'an. Il a commencé la prière et a confié qu'il allait mieux et que la fréquence de ses insufflations s'atténuait. Pensez-vous qu'il s'agit d'un djinn ou qu'il soit possible qu'il ait atteint d'une maladie psychiatrique? الله أعلم. تفضل الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. D'après moi, je dis d'après moi, c'est seulement mon avis. Donc il se peut que je me trompe. D'après moi, c'est un djinn. Et je me base sur quoi pour dire cela? Je me base sur le qarina. Qarina, c'est-à-dire le signe, qui vient de dire, lorsqu'il a dit que, quand il a commencé la salat, il s'est un peu apaisé. Or, quelqu'un qui est malade mental, même s'il commence la salat ou bien il lit tout le Coran, il ne peut pas être apaisé dans sa maladie. Ça reste toujours la même chose. Mais celui-là, quand il a commencé la prière, les voix ont commencé à, yani, à disparaître un peu. C'est donc un signe que, yani, il les a un peu gagnés, ou l'a battu, ou l'a vaincu, en faisant la salat et en se rapprochant d'Allah Azza wa Jal. Donc je conseille à cette personne de faire une ruqya. C'est quelqu'un qui s'y connaît bien. Et je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il le guérisse, yani, très bientôt. Naam. Tfadlan.
Naam, donc on passe à Umahaja 72. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne la aura de la femme entre sœurs musulmanes. Est-ce qu'il en est de même entre une mère et sa fille et entre sœurs de sang? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Tfadal shir.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La aura de la femme avec une femme, même si c'est sa mère ou bien sa sœur de sang, c'est la même chose. La aura de la femme avec la femme, c'est toujours la même chose. Que la femme soit sa mère, ou bien que la femme soit quoi? Soit une voisine. C'est-à-dire que, la aura de la femme avec une femme avec une femme, qu'est-ce qu'elle peut montrer? Elle peut montrer seulement les parties où elle fait le wudu. Donc elle peut montrer le visage, elle peut montrer les bras jusqu'au coude, elle peut montrer les jambes jusqu'aux chevilles et un peu plus haut, parce que on peut faire le haut dos jusqu'à la moitié du tibia, dans les bras un peu plus haut que les coudes, parce qu'on peut faire aussi le haut dos là-bas, et elle peut montrer ses cheveux, car c'est les endroits où on met la parure, elle peut montrer un peu de son cou, car c'est l'endroit où on met la parure, et toutes les autres choses, elle peut pas les montrer. Elle peut pas montrer sa poitrine, elle peut pas montrer son dos, elle peut pas montrer yani, ses cuisses, et comme ça. Elle peut pas les montrer à une autre femme, ni à sa mère, ni à sa sœur. Non. C'est en général la règle qu'elle montre. Une femme peut montrer à une autre femme tous les endroits où elle fait le dos, et tous les endroits où elle met la parure. Non. Tfadlal.
Non, donc c'est la question de Abdel Sabour. Salam alaikum, cher. Une sœur demande. J'ai essayé de mettre ces deux paires de lunettes très simples et pas du tout fashion. Mais quelles que soient les lunettes que je mette, les sœurs ne sont jamais satisfaites. Ça ne leur plaît jamais. L'une n'aime pas la première paire, l'autre n'aime pas la deuxième. Du coup, je ne sais plus quoi faire. C'est très embêtant. Je ne peux jamais les satisfaire. Mon but est de cacher mes yeux et le plus possible mon visage. Car je suis pour le sitar, mais mes parents n'accepteraient pas. Barakallahu fikoum, cher, de me dire ce que vous pensez de ces deux paires de lunettes. Inch'Allah, cher, je vous envoie le lien en PV. Voilà, cher, je vous ai envoyé le lien en PV, Inch'Allah. Tfadal, cher. Cher, vous êtes là, Inch'Allah. Et dites-moi également, Inch'Allah, si... Naam. Et dites-moi, Inch'Allah, si ça vous dérange, si je mets le lien sur la room ou pas. Inch'Allah. Tfadal, cher.
Pour le lien, moi je suis en train de l'ouvrir et comme j'ai une mauvaise connexion, ça va prendre du temps. Donc c'est à toi de voir. Tu l'ouvres et tu vois s'il n'y a rien de. S'il n'y a rien de choses. S'il n'y a rien de mal, mets-le dans le salon, il n'y a pas de problème. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens de voir les lunettes sur le lien. Naam. Elles me paraissent, yani, qu'elles ne sont pas des lunettes de Shohra, etc. Mais Yani pour être franc, je dis que je ne connais pas l'avis des savants sur les lunettes. Je n'ai jamais lu que disent les savants sur une femme qui porte des lunettes, pas des lunettes de vue, mais des lunettes de soleil, etc., dans la rue, avec le djilbab, etc., et le foulard. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'aimerais d'abord voir ce que disent les savants. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, je vous rends la réponse. Naam, tfadhal.
أخي الغرباء تفضل إن شاء الله.
السلام عليكم. عفوا. Alors j'ai la question de donc sur une speak. C'est donc Al-Farlouqiyoun. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. Un frère a décidé de jeûner 3 jours. pour un engagement qu'il n'a pas respecté. Il a déjà fait 2 jours hors le mois de Ramadan. Est-ce qu'il peut jeûner un jour obligatoire avec aussi la lia de faire son dernier jour d'expiation? Tfaddal Cheikh.
Pour la question, est-ce qu'il a fait le nadr quand il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait avec l'intention de... C'est-à-dire le nadr, le vœu, c'est de jeûner 3 jours consécutifs. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il a mis l'intention que c'était consécutif? J'attends la réponse. Pas forcément, d'accord. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Naam, elle attend que le Ramadan se termine et va jeûner le 3e jour, bi'idhna ta'ala. Va jeûner le 3e jour qui lui manque, bi'idhnillah ta'ala. Elle ne peut pas jeûner comme ça avec en joignant ses deux niyas, hein, parce que elle a décidé de jeûner 3 jours. Or, cette personne n'a jeûné que 2 jours, et voilà que le Ramadan est venu. Le Ramadan, cette personne est obligée de jeûner. Donc, ajouter la niya que c'est ou c'est l'autre, ça ne va pas lui être utile. C'est pour ça qu'elle attend, Inch'Allah Ta'ala, que le Ramadan se termine et elle rattrape le jour, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal.
Je ne sais pas si j'ai la question. Allahu a'lam, je n'ai pas la question. Ah, c'est alhamdulillah. Afwan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Inch'Allah, que votre épouse et vous portez bien. Hayakum Allah. Une sœur demande. Ça fait 5 ans qu'elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle désire divorcer parce qu'elle n'arrive pas à oublier ce qu'il lui a fait. Frapper, ne lui donner pas son haq et d'autres choses. Elle voudrait savoir concernant l'appartement, il est au nom du mari et de l'épouse. Vu qu'ils sont mariés à la mairie, à qui revient le logement? Et concernant ses enfants, à qui revient la garde? Et si elle divorce, quel conseil pouvez-vous donner à cette sœur pour qu'elle soit forte? Barakallahu fikoum de nous accorder de votre temps. Wa hayyakum Allah, qu'Allah vous accorde le Firdaus. Amin. Tfadal Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Faut dire que après 5 ans de mariage, on divorce, c'est vraiment décevant, si je puis dire. C'est vraiment décevant, si je puis dire. C'est pour ça que moi je dis toujours, d'après Inch'Allah Ta'ala l'expérience que j'ai, je dis que quelqu'un ne peut pas dire que khlas, ça marche mon mariage, etc., s'il ne dépasse pas les 5 premières années. Non. Car comme vous voyez, la plupart des divorces ont lieu avant les 5 premières années. Ils se marient, non, ils croient que ceci, cela, ensuite, vite il dit c'est pas celle que je croyais, elle a tel défaut, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. Surtout s'il se marie seulement pour les passions. Maintenant, il s'est rassasié, il n'a plus envie d'elle. Il veut vite changer, ou alors demander la co-épouse. Et ensuite, quand il prend la co-épouse, c'est la même chose. Il a eu ce qu'il voulait, il va dire, là, je peux plus gérer, etc., je savais pas. C'est pour ça qu'en général, si le mariage atteint 5 années, dans la plupart des cas, Inch'Allah Ta'ala, ça marche. 5, 6, 7, 8, 10 ans, Alhamdoulilah, Et maintenant, l'homme connaît bien sa femme, elle le connaît bien, elle connaît bien ses défauts, il connaît aussi bien ses défauts à elle. Yani, ils peuvent yani, s'entendre un peu difficilement, mais s'accepter. Mais, comme je dis, les 5 premières années, c'est vraiment difficile. Yani, on ne se connaît pas et vite on veut quoi? On veut jeter l'autre. On veut jeter l'autre et refaire sa vie. Et c'est comme ça la plupart que font en France. Allah Ta'ala leur pardonne. Al-Muhim, je dis à cette sœur, si vraiment maintenant Allah Ta'ala n'a pas écrit la continuité dans ce mariage et que tu as fait ce qu'il fallait faire avant cela, c'est-à-dire essayer de résoudre le problème, essayer d'envoyer un arbitre de ta famille, un arbitre de sa famille à lui, et il s'assoit, etc. Et que ne reste que la solution du divorce, dans ce cas, il faudrait que tu saches qu'en islam, l'appartement, si c'est l'appartement de l'homme, la maison, si c'est lui qui l'a acheté avec son argent, ça lui revient à lui. Car la femme divorcée en islam n'a pas la maison. Elle va où? Elle va chez ses parents. Car c'est un peu étonnant que je divorce ma femme. Elle me prend ma maison que j'ai achetée moi. Pendant des années, j'ai amassé de l'argent. Maintenant, c'est elle qui la prend. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se marier. Sûrement qu'elle va se marier. Et subhanallah al-adim, dans mon nom, dans ma maison maintenant, que j'ai acheté en suant, il y a un homme qui est là-bas avec mon ancienne femme. Je ne vois pas, moi, qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai gagné que la jalousie. C'est pour ça, en islam, si l'appartement ou la maison, c'est le droit, c'est le bien de l'homme, si elle divorce, elle va où? Elle va chez ses parents, ou bien elle attend que Allah Ta'ala la marie pour qu'elle aille chez Yanni, bien sûr, son nouveau mari. Maintenant, s'ils l'ont acheté ensemble, bien sûr, elle peut demander à verser pour cet appartement, s'ils l'ont acheté communément. Maintenant, reste aux enfants. Quand les enfants n'ont pas encore atteint 7 ans, ils sont chez leur mère. Ils sont chez leur mère quand il n'a pas encore 7 ans. Après 7 ans, l'islam les fait choisir entre le père et la mère. À condition que, s'ils choisissent l'un des deux conjoints, et que l'autre qui n'a pas été choisi remplit plus de conditions que l'autre qui a été choisi, alors on l'enlève à la personne qui l'a pris, on le donne à l'autre, celle qui remplit les conditions. C'est-à-dire en islam, après 7 ans, l'enfant revient aux parents, yani au père ou bien à la mère, yani celui ou celle qui a plus de religion que l'autre. C'est-à-dire, il ne revient pas à sa mère, par exemple, si elle ne fait pas de salat, ni à son père s'il ne fait pas de salat. Yani, par exemple, si l'un des deux parents, on le donne à celui qui fait la salat. Si l'un des deux parents boit l'alcool, etc., on ne lui donne pas à l'enfant, on lui donne à l'autre. Et comme ça. Non. Et enfin, un conseil. Maintenant, si c'est le divorce, il n'y a pas d'autre solution, alors je demande à cette sœur, d'avoir une étroite relation avec Allah Azzawajal, dans les doigts, dans la salat, dans ceci, pour que Allah Ta'ala l'aide. Car, avec des enfants, ce n'est pas facile de se remarier. Mais ce n'est pas impossible. Beaucoup de femmes se sont mariées avec 4 et 5 enfants. Mais, elle doit beaucoup faire de doigts à Allah Subhanahu wa Ta'ala pour qu'il l'aide, qu'elle se remarie. Car une femme mariée avec des enfants, ce n'est pas une solution qu'elle reste comme ça à vivre toute seule. Avec le shaitan, avec les tentations, avec le pays de mécréance, c'est très difficile. Et elle risque de tomber dans le haram. Mais si elle se marie, remarie, elle s'est préservée, bi'idhnillah ta'ala. Donc, pendant toute cette période où elle est seule, elle doit craindre Allah Ta'ala au maximum et lui demander à chaque fois de lui ouvrir ses portes et de l'aider à ce qu'elle trouve quelqu'un qui la préserve, bi'idhnillah ta'ala, qui préserve ses enfants, qui sera un pilier pour elle, une moitié, sa moitié, qui va l'aider, inshallah ta'ala, et ensemble, ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a pas de bonheur et de vrai bonheur comme yani, quelqu'un qui est marié à une femme, ou là, une femme qui est mariée à un homme, qui quoi, qui se, si je puis dire, s'entendent bien et se comprennent. Non. Quand ils sont les deux dans le din, et que les deux sont dans le même minhaj, et que, mashallah, ils s'entendent, non. Ça c'est déjà le paradis sur terre. Non. Et l'enfer, c'est quand quelqu'un est marié à une femme, non, il ne s'entend pas avec elle, ou bien c'est le contraire. Quand il rentre chez lui, non, s'il pouvait, il ne rentrerait pas. Et elle aussi. Quand elle est à la maison, elle se rappelle qu'il va venir maintenant du travail. Si elle pouvait faire des doigts, elle les fait pour qu'il ne vienne pas. Et ça existe. Mal asaf. Je le dis, mais ça existe. Non. Mais j'ai dit, si Alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal joue entre les cœurs et qu'on s'entend bien, même si on s'aime pas. Je dis même si on s'aime pas, mais si Alhamdoulilah, déjà on s'entend bien, il n'y a pas de dispute, ou alors il n'y a pas beaucoup de disputes, non. Et que Alhamdoulilah, on ne pense qu'à nous, qu'à l'avenir des enfants, qu'à notre dîn, qu'à l'au-delà, que Allah Ta'ala nous a voulu un bien et un grand bien. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, il est 1h du matin. Je dois vous quitter, Bidna Azzawajal, surtout que j'ai des invités à la maison. Je vous donnerai rendez-vous normalement, Inch'Allah Ta'ala, pour samedi. Mais il est possible que je rentre vendredi, Inch'Allah Ta'ala. Il est possible que vendredi, Inch'Allah Ta'ala, je rentre si j'ai du temps, Bidna Ta'ala. Si vous ne voyez pas vendredi, ce sera comme j'ai dit pour samedi, Inch'Allah Ta'ala. Sauf, bien sûr, s'il n'y a pas de connexion. Naam. D'ici vendredi, inshallah ta'ala, jeudi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je dis à l'ghuraba que j'attends le téléphone demain, inshallah ta'ala, à quoi? À 23h pour la sœur, inshallah ta'ala. Naam. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته